Vous écoutez
RMC.
L'OM, qu'est-ce que c'est un bon président de l'OM, Vincent?
Depuis que M. Pilucelli a pris en main l'équipe de Beauvallon-sur-Oise, morale dans les cafés de la ville est bien remontée.
Toujours le même cinéma, toujours le même, la même pagaille. D'année en année, ça ne s'arrête pas à Marseille. Hein.
Pablo Longoria, on t'aime bien, mais tu dois partir.
Non, vous savez, le sport, pour moi, c'est une passion. Vraiment une passion. Moi, quand je vois un stade entier qui se lève et qui crie... Enfin...
Ce jour-là, c'est la déception dans le camp de Pilucelli.
Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous.
Bonjour, monsieur l'arbitre.
En deuxième mi-temps, surprenant retournement, 6 à 2, dont 4 pénaltys. Le football vous dit merci, monsieur Pilucelli.
C'est l'événement du jour sur RMC. Pablo Longoria prend la parole au micro de Florent Germain pour désamorcer la crise, pour parler de la suite, l'avenir à court, à moyen terme. On va l'écouter tout de suite. Vous réagissez ensuite au 32-16. Florent Germain, bonjour.
Salut Pierrot. Bonjour. Salut à tous.
Salut. Alors évidemment, on ne va pas tout écouter, mais l'intégralité est sur rmcsport.fr. On va
dans un instant, oui.
Tout de même, entendre des propos très importants qu'a tenu Pablo Longoria aujourd'hui à ton micro.
Exactement. C'est vrai qu'il ressentait ce besoin de parler et de faire le point sur le sportif et d'autres sujets. On va d'abord l'entendre, si vous le voulez bien, sur le fait qu'il a vécu forcément une période très délicate avec cette réunion du 18 septembre. On en a beaucoup parlé et il voulait éclaircir un point, puisque l'un des thèmes qui était abordé du côté des supporters et qui a un peu ému l'opinion publique, c'est de savoir s'il y avait eu des menaces de mort de la part des leaders de groupes de supporters lors de cette réunion. Eh bien, Pablo Longoria, donc au micro de RMC, nous apporte une version un peu différente de ce qui a pu être entendu ci et là après la réunion. En tout cas, éclaircissement du président de l'OM, on l'écoute.
Il y a des menaces, oui. Ça a dépassé les limites dans tous les contextes sportifs, oui. Les groupes de supporters, ils sont amis, ils ont dépassé les limites, oui. Il y a des menaces de mort? Non. Et dans aucun moment, j'ai dit ces paroles qu'il y a des menaces de mort, que c'est une parole très forte. Mais en même temps, je considère que quel que soit le type de menace d'un supporter à un dirigeant d'un club de football, il ne doit pas être accepté.
Voilà, alors si on met ça dans le contexte, il faut rappeler qu'il y a 2-3 semaines, il y a eu une rencontre entre Pablo Longoria et tous les leaders de groupe, groupe par groupe, pour un petit peu se serrer la main, repartir sur de nouvelles bases. Donc on est sur des relations pacifiées. C'était important pour les groupes de supporters d'entendre de la voix du président de l'OM qu'il n'y avait pas eu de menace de mort en soi. Alors l'OM et Pablo Longoria surtout maintient sa plainte, parce que de toute façon sa plainte ne vise pas que les leaders de groupes de supporters, c'est plus globalement un contexte d'intimidation qu'il veut dénoncer, mais il était important pour le président de l'OM de faire cette précision. On peut aussi l'entendre, mon cher Pierrot, sur évidemment le sportif, parce que la situation de l'OM, on la connaît, elle est compliquée, avec cette 10e place au classement. Et il y a un vrai mea culpa de la part de Pablo Longoria sur quelque chose dont on a beaucoup parlé dans le Moscato Show ou chez Rotten sans flamme sur RMC en général. C'est sur les changements d'entraîneurs incessants et les conséquences que ça peut avoir sur le jeu de l'équipe, sur l'effectif, sur peut-être le moral des joueurs. Bref, globalement, a-t-il sous-estimé l'impact qu'aurait un changement d'entraîneur, surtout en passant à deux styles totalement différents entre Igor Tudor et Marcelino? Réponse très sincère, écoutée de Pablo Longoria.
Je dois faire de l'autocritique. C'est une erreur de notre côté comme club, et je me le prends à titre individuel, de ne pas assez analyser et minimiser l'impact d'une transition d'un style de jeu à un autre.
C'est-à-dire qu'on a un vestiaire qui est un peu perturbé.
Je vais faire un confidence, non? Avant de prendre des décisions, Marcelino, elle dit, comment tu vois la transition d'un style à l'autre? Et je lui ai répondu que je n'étais pas préoccupé pour une transition d'un style à l'autre. La réalité, ça nous a dit que c'était une analyse de mon côté très superficielle, spécialement parce que beaucoup des joueurs qui sont continués de la saison dernière, ils avaient intériorisé ces façons de jouer et la construction d'un collectif très organisé comme il voulait faire Marcelino, ou comme lesquels qu'il veut mettre en place maintenant Gennaro Gattuso, c'est quelque chose qu'on a pris à la légère.
Voilà, donc quand même des mots assez forts, ouais, de Pablo Longoria qui reconnaît certaines erreurs à ce niveau-là, Pierrot. On a bien compris, hein, Igor Tudor, c'était le marquage individuel, l'intensité. Marcelino, c'était tout à fait différent. Bon, vous pourrez lire effectivement sur rmcsport.fr. C'est pas la seule autocritique qu'il admet, Pablo Longoria. Il a été très sincère lors de cette interview. Sincère aussi concernant son avenir, parce que la question se posait à Marseille. On peut plus dire se pose parce qu'il va y répondre. Savoir si lui s'inscrit vraiment dans la durée. On le dit distant, on le dit fragilisé par la réunion du 18 septembre, par les polémiques qui ont suivi. Bah, Pablo Longoria a voulu à notre micro clarifier sa situation et son avenir.
Dans les moments que j'ai pris la décision de continuer, tu t'es investi dans la durée. Ça serait irresponsable, injuste, inconscient et un manque de respect envers l'institution de l'Olympique de Marseille. Fragilisé, je ne crois pas. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup d'envie. C'est vrai que j'ai compris beaucoup de choses.
En quoi le Pablo Longoria ne sera plus le même après ce 18 septembre?
Pour faire cette clé plus stable, plus solide, c'est besoin d'avoir une personnalité comme président qui soit très fort. Parce qu'on ne peut pas se laisser porter par l'attention du moment, par les nerfs. Tout le contraire, un dirigeant d'un club de football et un président de l'Olympique de Marseille doit être une personne très analytique et très froid pour prendre beaucoup de décisions. C'est très important dans ces moments.
Voilà pour les mots de Pablo Longoria. Une partie de l'interview, hein, parce que il parle également d'Alexis Sanchez, du recrutement, pourquoi pas cet hiver. Beaucoup de dossiers abordés. En tout cas, une interview en vérité. J'ai passé quasiment une heure et demie avec le président de l'OM tout à l'heure dans son bureau.
On va réagir. On va bien sûr vous renvoyer vers le site rmcsport.fr pour tout lire, tout écouter de l'interview de Flo. Juste un mot quand même parce que ça intéresse toujours au plus haut point les fans, c'est d'éventuels changements au mercato. Qu'est-ce qu'il t'a dit de ce point de vue-là, Flo, en deux mots?
Alors écoute, que quoi qu'il arrive, sa philosophie, c'est qu'il faut toujours s'adapter à son entraîneur. Alors je l'ai relancé, je lui ai dit oui, mais c'est problématique. Si vous changez d'entraîneur tous les ans, il faut changer d'effectif du coup tous les ans. Donc c'est l'une des autocritiques qu'il a admises tout à l'heure. Concernant cet hiver, vu que Gennaro Gattuso a quelques demandes, il glisse qu'il y aura probablement minimum deux renforts. Alors il n'a pas donné de chiffres, mais concernant les postes, un arrière gauche est recherché du côté de l'OM. C'est un souhait de Gennaro Gattuso.
Et un arrière gauche.
Ouais, exactement un arrière gauche. Et on comprend très clairement qu'il souhaite également un ailier pour avec des caractéristiques bien différentes par rapport à ce qu'offre Ismaïl Assar ou Joaquín Correa par exemple. Donc un ailier avec des caractéristiques qui colleraient plus au style de Gennaro.
Un arrière gauche qui sera un numéro 2, je suppose, parce que Renan Lodi n'est pas le joueur.
Exactement, c'est-à-dire que la doublure de Renan Lodi, c'était Emran Sodlo qui avait eu un peu de temps de jeu avec Marcelino, beaucoup moins avec Gattuso. Gattuso le considère plus comme un joueur offensif et donc l'OM aimerait un profil de latéral gauche, ouais, qui serait plus défensif par rapport
à... Il ne veut pas des trois parce que c'est que des pipes qu'il y avait à Marseille en trois.
Donc, bon, c'est le dernier en tout cas, que tu prends quand tu fais la...
Vous retenez l'essentiel.
Tu fais chou-fleur.
En gros, il s'inscrit dans la durée à Marseille. Il dit qu'il a adapté sa façon de fonctionner depuis la crise du 18 septembre. Il maintient que les limites ont été dépassées. Il précise qu'il n'y a pas eu de menace de mort. Et enfin, sur le sportif, là, il fait son autocritique. 32-16, vous venez réagir, supporter de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il vous a convaincu, Pablo Longoria? Eric, on va commencer par toi. Est-ce qu'il t'a convaincu, Pablo Longoria? Je ne sais pas s'il y a un des thèmes qui te tient le plus à cœur, mais vas-y.
Non, mais première chose à dire, quand même, c'est rare que président vienne et t'explique qu'il s'est trompé. C'est rare à ce moment-là de la saison. On est premier tiers de la saison. C'est très rare. Hein. Alors tu vas me dire, c'est difficile de dire le contraire.
Tu peux mettre ça sur le dos de l'entraîneur, sur le dos de l'entraîneur.
Oui ou non.
Bah,
tu peux surtout ne rien dire, tu vois. Parce que mettre sur le dos de l'entraîneur, c'est pas très sympa quand tu viens de le faire venir depuis un mois. C'est pas trop le style, quoi. Mais Après, est-ce qu'il m'a convaincu? J'ai pas tout écouté. Sur ce qu'il dit là, il fait un mea culpa, donc il manquerait plus qu'on ne soit pas convaincu sur son mea culpa, puisque on est plutôt d'accord avec lui sur le fait que tu peux pas travailler dans la continuité si tu changes d'entraîneur tous les ans, si tu changes la moitié de ton équipe type tous les ans, tu repars pratiquement à zéro chaque fois, et donc il faut refaire chaque fois un nouveau miracle. Voilà. Sauf que le miracle, il a eu lieu les deux dernières saisons, voire même pour certains. La saison de Sampaoli, et là j'ai bien peur que cette année il n'y ait pas de miracle. Écoute, je crois que l'info la plus importante finalement, parce que on pouvait se poser la question après ce qui s'est passé avec les supporters, c'était est-ce qu'il est encore là sur le long terme.
Oui.
Là par contre, je le crois sincère.
Alors,
c'est l'info la plus importante finalement. Hein. Après, je réécouterai le reste, mais sur ce que j'ai écouté, le seul endroit où on l'attend sincère, c'est sur cette affirmation, et je le crois sincère.
Alors, est-ce qu'il peut... que les affirmations football, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ah ouais, non, mais après, aujourd'hui, c'est dans 6 mois, et quand il vient au stade, il se fait siffler par tout le stade, c'est sûr que
ça n'a pas bon.
Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il ne le soit pas sincère, Vincent? Quand il dit qu'il s'inscrit dans la durée.
Encore une fois, comme Eric, le mec, il vient, il n'est pas obligé de venir.
Ça voudrait dire qu'il a digéré.
Après, il fait de la com aussi, attention. Il maîtrise, attention.
Il en avait besoin humainement, parce qu'il a vécu un truc un peu dur. Il n'était pas habitué, en tant que président, de se faire secouer par certains supporters. Il n'était pas habitué, ça l'a surpris un peu. Il s'est dit, bon, mais là, quand même, il a mis du temps. C'était en septembre, il a mis deux mois pour revenir. La situation sportive au club n'est pas terrible, donc il avait besoin peut-être aussi de parler. Les gens attendaient qu'il parle. Non,
c'est bien que le président parle quand ça va mal.
Ouais, il a parlé, c'est pas caché. Mais à culpa, moi j'ai dit champion, parce que les mecs actuellement dans le sport de haut niveau, dans le sport professionnel, quand t'es responsable d'un grand club, qui font leur mea culpa et qui disent qu'ils se sont plantés sur le changement, ce qu'on avait dit souvent, Eric, dans l'émission, dans le Super Moscato Show, on avait dit quand même que de changer une fois, deux fois, trois, à chaque fois, faut repartir à zéro. Pour des joueurs, c'est un enfer. Et puis après, t'es obligé de changer des joueurs, tu perds Sanchez, c'est dommage qu'il n'ait pas parlé de Sanchez. Bon.
Il en a parlé, soi-disant.
Si tu veux, on pourra l'écouter tout à l'heure, puisque
aurait été bien d'entendre sur Sanchez.
Alors on va l'écouter sur Sanchez, pour l'instant, Raji,
si
sur ce qu'on a écouté.
Si tu veux tout écouter, alors.
Ah, bah oui, non, c'est important.
Vincent, il a besoin d'informations pour.
Non, c'est un virage, le départ de Sanchez.
Philippe, il t'a convaincu ou pas?
Moi, non. Moi, j'ai vraiment l'impression que quelque chose est cassé.
Ah ouais?
Ouais, je pense que depuis le dérapage avec les supporters. Alors après, Eric est marseillais, mais sur ce qui se dit, c'est qu'il est moins motivé, il est moins impliqué. Alors là, bien sûr, il a les coronesses de venir et d'avoir un message et de faire une autocritique. Mais on sait que dans le sport professionnel, que ça peut aller très, très vite. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que, il y a quelque chose qui est cassé entre lui, le club et les supporters et que
c'est pour ça qu'il dirait continuer. C'est pour ça peut-être qu'il ferait son mea culpa, c'est qu'il dit il a les affaires courantes. Il dit voilà, je me suis planté.
Ouais, mais il dit qu'il va rester.
Mais après,
dans le sport de haut niveau,
sincère, il dit tout.
Ouais,
mais le sport de haut niveau,
il a compris qu'il faut pas craquer nerveusement. Ouais.
Dans le sport de haut niveau, tu restes et puis 15 jours après, tu fais les cartons.
Ouais, mais Philippe d'un autre côté, parce que dans cette réunion, il y a eu aussi une critique de sa gestion en interne, de sa manière de manager le club envers les salariés, voire envers les gens qui sont proches du club. Si tu entends cette critique et que tu changes, c'est pas bien non plus.
Si,
tu peux évoluer.
Oui, tu peux évoluer, mais c'est pas trop là-dessus.
Non, mais puisque Philippe dit, il a l'air moins impliqué, mais peut-être que justement, c'est parce que il était trop impliqué, qu'il était peut-être un peu dur dans son management et qu'il a lâché un peu du mou, peut-être aussi.
Alors, la parole aux auditeurs, supporters de l'Olympique de Marseille. Longoria, vous est-il convaincu? Alors, on a écouté des extraits. Hein, l'interview est plus longue et vous pouvez en retrouver l'intégralité sur rmcsport.fr. Il reconnaît des erreurs dans sa politique sportive à l'intersaison sur son avenir, il s'implique dans le long terme et il a redit que la réunion s'est mal passée le 18 septembre avec des supporters qui ont dépassé les limites, mais qu'il n'y a pas eu de menace de mort. Yannick réagit au 32-16, Yannick. Supporter de l'OM. Salut Yannick.
Hey, bonsoir à tous.
Oui, bon.
Est-ce que le président Longoria t'a convaincu, Yannick?
Alors non, pas du tout. Est-ce que vous pouvez me laisser 2-3 minutes pour exposer?
C'est parti.
Alors, même 5.
Voilà. Ouais, même 5. Tout simplement, moi je trouve qu'il fait que du blabla, toujours. J'ai encore en travers son interview après les fameuses histoires à la commanderie où c'est une mise en scène. Limite, il y a un clap à chaque scène. où il se décoiffe, tout décoiffé, tout fatigué là. Moi, je trouve que cette personne-là n'est pas un président de football, de club de foot, et surtout pas un président pour l'Olympique de Marseille. C'est à chaque fois, il ne parle jamais. Alors là, il s'exprime. Bon, certes, c'est bien. Il avoue un peu à demi mot s'être un peu trompé, c'est bien. Mais en fait, c'est depuis 3 ans, en fait, tous les ans, il joue au poker et il fait all-in avec un 3 et un 8 dépareillé, quoi. Donc cette année, c'est pas passé. Ça passe pas à tous les coups qu'on fait un coup de bluff. Et cette année, on en paye les pots cassés. Et en fait, au final, moi, cette personne, alors j'ai jamais trop apprécié la personne parce que je trouve qu'il fait beaucoup trop de changements. Et cette personne, en fait, est arrivée à se mettre une frange partie des supporters dans la poche, qui lui ont donné les clés de l'Olympique de Marseille et qui le montaient même en mayonnaise en disant c'est limite mieux que Tapie, que Pape Diouf, etc. Au final, son seul, il s'est mis tout le monde dans la poche, comme je dis. Et au final, ben sa seule réponse à tout ça, c'est à la moindre petite accro, pardon, c'est de ressortir haut et force le projet Agora que Héro avait laissé de côté juste avant son départ, parce que c'est un peu ça qu'il en est. Aujourd'hui, on n'entend plus du tout non plus l'actionnaire majoritaire qui est aux abonnés absents. Qu'est-ce qu'il veut faire de l'Olympique de Marseille? Le club est dans une merde pas possible sportivement. Financièrement, il a joué aussi au poker en avançant sûrement des billes de revenus de la Ligue des Champions. Qui nous, aujourd'hui, on n'y est plus, on n'y est pas du tout, on s'est fait sortir lamentablement par l'Olympiakos. Voilà, toutes ces questions font qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus aucune confiance en Pablo Longoria.
C'est Panathinaikos, pour être
précis. Panathinaikos, autant pour moi, oui, autant pour moi. Il n'y a plus aucune confiance pour moi de ma part envers Pablo Longoria, et je pense qu'une frange majorité des supporters sont dans le même état d'esprit.
Je crois pas.
Il a plus. Ben, peut-être. Il a plus de crédit. Pour moi, il a plus de crédit. Et c'était le dernier fusible de McCourt. Donc maintenant, on attend que Franck McCourt vienne et nous explique un peu qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va le laisser à ses petits-enfants? Et est-ce que ses petits-enfants va le laisser à ses arrière-petits-enfants?
Le club, parce que, tu parles, hein?
Non, je parle du club parce qu'on parle aussi de Franck McCourt, parce que c'est Franck McCourt qui fait aussi le choix principal.
Comme on n'a pas entendu le président Longoria là-dessus, Flo, en deux mots, tu peux nous dire, est-ce qu'il a dit quelque chose sur une éventuelle vente?
Mais bien sûr qu'il va démentir. Il va dire
oui. Qu'est-ce qu'il va démentir?
On peut d'abord savoir ce qu'il a dit, Yannick. Qu'est-ce qu'il a dit sur la vente?
Mais justement, donc on va pouvoir le lire et l'écouter, puisque évidemment on peut pas diffuser une heure d'interview maintenant. Il a simplement affirmé avec force que Franck McCourt était encore investi, que il y a un passage intéressant, très intéressant, où il demande dans quel grand club on entend l'actionnaire tous les 6 mois pour parler de l'OM. C'est un propriétaire, c'est un actionnaire.
Président.
Le président au quotidien, c'est Pablo Longoria. Franck McCourt, c'est ce que nous confie Pablo Longoria, a souvent cette phrase auprès du président de l'OM. Il lui dit moi, c'est toi. Donc en fait, c'est carte blanche, je te fais confiance. Et évidemment, je l'ai relancé sur les rumeurs de vente du club. Si on entend à chaque fois oui, mais il va démentir, oui, mais il va démentir, je lui pose la question. Il dément avec force. Il a même la sincérité de dire que par moment, Pablo Longoria a été touché, voire marqué par autant de rumeurs de vente, et que ça a pu perturber même le vestiaire, parce que certains joueurs sont parfois venus voir Pablo Longoria pour lui dire non mais attendez, dites-nous où on va, qu'est-ce qui se passe avec l'OM. Et voilà, il garantit que Franck McCourt s'inscrit dans la durée et par son investissement prouve qu'il est bien présent à la tête de l'OM. Donc est-ce après, Flo... si certains ne veulent pas l'entendre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre?
Oui, après il peut ne pas dire toute la vérité, mais en tout cas c'est son discours. Et ça, il faut quand même l'entendre. Eric.
Flo, est-ce que dans l'interview, du coup, parce qu'on a entendu que très petit passage finalement, est-ce qu'il parle, parce qu'il fait son mea culpa sur le changement d'entraîneur, mais est-ce qu'il parle des 40 recrues en 3 ans, des 40 départs, 40 arrivées, parce que c'est, ça aussi quand même, moi je veux bien qu'il prenne sa responsabilité sur le changement d'entraîneur, en disant ça finalement, Tu prends qu'une part des responsabilités, comme dit notre auditeur. Que je sache, le recrutement, c'est souvent lui seul. Et il y a quand même, si on fait la liste, il y a beaucoup de ratés.
Ça a marché jusqu'à cet été. C'est-à-dire que quand Yannick nous dit, tout le monde dans la poche par une politique qui a marché quand même au début.
Non, mais moi je parle pas de marché pas marché. Je te dis, si tu t'amuses à faire la liste des joueurs partis et arrivés depuis qu'il est là, il y en a 40 au moins. Dis-moi combien Combien sont des réussites? Quand je parle de réussite, c'est un garçon que tu fais venir, sur lequel tu fais beaucoup, qui progresse chez toi et que tu gardes un long moment, c'est-à-dire qui t'apporte et que derrière tu gagnes des sous. Dis-moi combien il y en a.
Alors, je vais peut-être te répondre ou pas, mais en tout cas pour le
moment, on fait une parce toute que petite ça va pause. Voilà.
On remercie Yannick et vous êtes les bienvenus au 32-16. D'autres sons de cloche à venir. Yannick n'était pas content, pas du tout convaincu par Pablo Longoria. Vous appelez le 32-16, vous êtes sur RMC.
17h28, le Super Moscato Show, on revient.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.